Effectivement, on va parler gazon et mauvaises herbes ce matin. Hier soir, j'ai regardé avec ma femme un reportage sur France Télévisions. Elle m'a écrit un message l'après-midi. Ah, il y a un reportage qui est sorti sur France Télévisions sur les évangéliques, on le regarde ce soir. Je lui ai répondu, je suis pas sûr que j'ai envie de le regarder. On l'a quand même regardé. Je suis pas sûr que j'aurais dû le regarder. Ce reportage était intéressant, autant d'un point de vue journalistique que sur le milieu évangélique. Mais ce reportage a fait polémique. On s'y attendait. J'ai regardé après, pendant de longues minutes, les différents commentaires sur les réseaux sociaux. J'étais un petit peu énervé quand même. Je regardais, mais comment est-ce que les gens ont réagi à ce reportage? Donc j'ai regardé les vidéos sur YouTube et j'ai regardé les commentaires. Alors certains vont tout à fait dans le sens, les évangéliques, c'est une secte. Les autres, non, gloire à Dieu, etc. C'est dans la persécution qu'on va y arriver, super. Enfin, vraiment deux pôles complètement différents dans les commentaires. Puis plus je lisais, plus je m'agaçais, mais plus je m'agaçais, plus je continuais à lire. Je dis, j'espère qu'il y en a un qui va être d'accord une fois, enfin qui va dire ce que j'ai envie de penser. Je me suis même dit, est-ce que j'écris un commentaire au nom de l'Église évangélique? Non, pas vrai. Non, non, c'est bon, je vous rassure. Est-ce que j'aurais dû écrire un commentaire? Comment est-ce qu'il faut réagir face à ce genre de situation-là? Quand il y a quelque chose qui nous agace, quelque chose même qui nous met en colère, quelque chose qui nous dit, mais c'est, au fait, qui nous fait dire, mais c'est injuste. Comment est-ce qu'il faut réagir à cela? Et c'est ce à quoi nous répond cette parabole de la mauvaise herbe et de la bonne herbe, j'allais dire. Enfin, je sais plus le titre par cœur. Cette question, comment est-ce qu'on doit réagir? La réponse est simple. Patience. Patience. Cette parabole nous encourage à la patience. Elle nous encourage pas seulement à la patience envers les uns et les autres, mais à la patience face au mal, la patience face à la souffrance, patience face à l'actualité que nous pouvons lire quotidiennement et qui parfois nous agace, patience face au reportage de France Télévisions. Alors je vous invite à lire ensemble cette parabole en Matthieu 13, verset 24. Où on lit, Jésus leur proposa une autre parabole. Il en avait déjà eu une, hein, le semeur et les terrains, ça vous rappelle quelque chose? Évidemment, bien sûr. Jésus leur proposa donc une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? Il leur répondit, C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent, Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Explication à partir du verset 36. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Drôle de parabole, ne trouvez-vous pas ? Enfin, drôle, c'est une façon de parler. C'est une parabole qui a quand même le mérite de soulever une question cruciale. C'est que si on conçoit que le royaume de Dieu est venu en Jésus, comment est-ce que ça se fait qu'il y ait encore la présence du mal dans le monde ? Si le royaume de Dieu est là, est venu en Jésus, il l'annonce, comment est-ce que le mal peut encore être dans le monde ? Alors Jésus ne répond pas à cette question. Mais au travers de cette parabole, il invite ses auditeurs et ses disciples à lui faire confiance. Il les invite à la patience. Pour comprendre ce qui se passe dans cette parabole, il faut qu'on comprenne quelque chose. Cette parabole révèle une temporalité dans le royaume de Dieu. Cette parabole illustre le développement du royaume de Dieu dans le temps. C'est comme si, pour une comparaison culinaire, vous alliez chez McDonald's. McDonald's, c'est simple, on commande et il y a tout qui vient d'un coup. L'idée, c'est que ce soit rapide et efficace. Alors le royaume de Dieu, ce n'est pas forcément comme le McDonald's où on commande, ça vient, puis c'est bon, c'est réglé. C'est plutôt le repas gastronomique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un restaurant gastronomique. On n'en a pas pour 20 minutes. En général, on s'assied, on prend le temps d'un apéritif, il y a les amuse-bouches, l'entrée, deuxième entrée, troisième entrée, enfin, après ça dépend le budget que vous avez pour ça. Mais on enchaîne les plats. En fait, c'est une soirée, un repas où on prend le temps. Et le royaume de Dieu n'est pas comme le McDonald's, mais plutôt comme ce restaurant gastronomique. Ou les prophètes qui annoncent le royaume de Dieu, c'est comme l'amuse-bouche. On dit, ah ben tiens, c'est bon, on aimerait vite voir la suite. Et là, les prédications de Jésus, c'est l'entrée. On commence à avoir quelque chose de consistant. Mais le repas est encore en train de se dérouler. Il y a cette notion de temporalité. Et cette notion de temporalité, on la retrouve dans la parabole en trois actes, finalement. Il y a trois actes dans cette parabole. Il y a d'abord les semailles, le sabotage, et ensuite on prend conscience du problème et on recherche une solution. Les semailles, on retrouve ici la même idée que la parabole du semeur, c'est qu'il y a un paysan, un semeur, qui sème la bonne semence dans son champ. Alors ce semeur est identifié à Jésus, plus tard dans l'explication. Jésus sème la bonne graine, la bonne parole, l'évangile dans le monde. Mais, deuxième acte, il y a un sabotage. Il y a un rival. Il y a un ennemi qui vient volontairement saboter le champ. Cet ennemi cherche délibérément à nuire au travail du semeur. C'est du vandalisme. Ce n'est pas accidentel. Il vient volontairement mettre la mauvaise herbe. Savez-vous quel est le mot grec qui désigne mauvaise herbe ? Zizania. Vous savez ce que ça veut dire en français ? Ah ben voilà, vous êtes bon. Vous savez du grec. Zizanie. On l'utilise souvent quand quelqu'un sème le trouble, il sème la zizanie. Je crois que c'est dans Astérix et le Devin où on parle de zizanie et on voit les conséquences qu'il peut y avoir. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que la zizanie, lisez Astérix et le Devin et vous verrez les conséquences qu'il peut y avoir. La mauvaise herbe amène la zizanie. L'ennemi est ici identifié au diable. Le diable qui sème le trouble dans la bonne création de Dieu. Le diable, en fait, il s'oppose à l'avancée du royaume de Dieu. Finalement, nous avons ici deux semeurs. Il y a le semeur de vie, Jésus, et le semeur de trouble, de division, le diable. Alors, quand les deux semences grandissent, les serviteurs voient qu'il y a un problème. Ils prennent conscience du problème, troisième acte. Et ils proposent même une solution. J'aime bien, ils sont actifs. C'est qu'ils vont vers le maître, ils disent, mais il y a un problème, voilà ce qu'on propose. La réaction du maître commence par poser un constat. Ce qui se passe dans ce champ, ce n'est pas un accident. C'est un ennemi qui a fait cela. Le mal dans le monde n'est pas une fatalité. C'est un ennemi qui en est la cause. C'est le diable. La tentative délibérée pour ruiner la productivité du royaume de Dieu est désormais mise au jour. Jésus dit « c'est un ennemi qui a fait cela ». Et les serviteurs, eux, sont particulièrement efficaces parce qu'ils proposent aux propriétaires du champ une solution. Ils sont prêts à intervenir rapidement. Ils veulent corriger le problème. Ils disent « veux-tu que nous allions l'arracher ?» Et ils sont zélés quand même. Il y a un problème, on y va, on va se battre. On va l'arracher, cette mauvaise herbe. Et celles et ceux qui font du jardinage, vous saurez que quand il y a une mauvaise herbe, c'est bien de l'enlever rapidement. Alors je sais qu'en Suisse, il y a l'aspect esthétique du potager qui compte, mais si on laisse la mauvaise herbe, ça peut étouffer vraiment la semence. C'est juste, je n'ai pas vérifié. Oui, voilà, c'est bon. Je regarde les mains vertes, elles ne font pas non de la tête. Je me souviens, on était en vacances dans l'appartement de mes beaux-parents, en Suisse allemande, et puis il y avait deux pots de fleurs sur la terrasse, et puis dans un pot de fleurs, il y avait un palmier, un joli palmier qui était là, puis dans l'autre, je ne sais pas ce que c'était de l'herbe qui poussait, et puis quand mes beaux-parents sont venus après, je dis à mon beau-père, ah mais c'est joli ce que tu as mis là, c'est quoi? Puis il dit, ah mais ça c'est de la mauvaise herbe, c'est un palmier normalement. Et il y avait tellement de mauvaises herbes que je n'ai pas vu le palmier qui essayait de grandir dessous. Il faut arracher la mauvaise herbe. C'est là une réponse logique, une réponse pleine de bon sens. Il faut l'arracher pour éviter qu'elle étouffe les bonnes graines. Et la réponse du propriétaire se fait en trois phases. Trois actes, trois phases. Facile à retenir. Sa réponse, c'est non. Non, on ne va pas l'arracher. Quelle est la logique derrière? De peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Il est prudent, le propriétaire. Solution proposée, laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je ne connais aucun paysan qui fait ça. Laissez-les grandir ensemble, et un jour, ce sera trié. Et c'est là, c'est dans cette solution proposée qu'est la pointe de cette parabole. Laissez l'un et l'autre poussés ensemble jusqu'à la moisson. C'est la grande révélation de cette parabole. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Alors comment est-ce qu'on doit comprendre cette parabole ? Ce n'est pas une leçon de morale. Même si des parallèles peuvent être faits. Cette parabole montre plutôt une réalité. Une réalité qui est encore cachée pour de nombreux auditeurs de Jésus. Il faut qu'il l'explique après aux disciples. Mais cette réalité est la suivante. Le royaume de Dieu cohabite dans ce monde avec le mal. Et cette réalité était valable au temps de Jésus et encore valable aujourd'hui. Le royaume de Dieu cohabite dans ce monde avec le mal. Et c'est là un mystère. Et on ne sait pas pourquoi. Cette parabole ne dit pas pourquoi, mais elle nous dit plutôt comment vivre cette cohabitation. Elle nous dit comment vivre ce temps d'attente avant la moisson. Et si on se pose la question, pourquoi est-ce que Jésus raconte cette parabole ? On peut certainement penser que chez ses contemporains, beaucoup disaient, mais en fait, la venue du royaume de Dieu mettra fin à tout ce qui s'oppose à Dieu. Quand le royaume de Dieu viendra, nos ennemis seront vaincus. C'était ça l'attente et le discours qu'il y avait à l'époque de Jésus. Mais Jésus, au travers de cette parabole, dit non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Il y a un délai. Il faut attendre. Deux visions du monde sont en train de s'entrechoquer à ce moment-là. Celle des serviteurs qui disent, mais qui veulent l'immédiateté, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on arrache cette mauvaise herbe. Et puis il y a la logique du propriétaire du champ qui préconise d'attendre. Jésus invite ses disciples, ses auditeurs à ne pas devancer le calendrier de Dieu. Il les invite à la patience, à résister à la tentation de vouloir accomplir le royaume de Dieu par eux-mêmes. Alors quel rôle est-ce qu'il faut que les disciples et l'Église jouent dans ce temps d'attente ? Que faut-il faire dans cette cohabitation ? Ce qu'il faut faire, ce que nous sommes invités à faire, c'est que l'Église a un pouvoir d'influence, de persuasion, mais pas d'imposition. On ne peut pas imposer le royaume de Dieu. On peut influencer des changements, distiller des valeurs, annoncer l'Évangile, mais on ne peut pas imposer le royaume de Dieu. Est-ce qu'il faut se décourager ? Bien au contraire, je vous dirais. Bien au contraire. Si on ne peut pas imposer le royaume de Dieu, ça veut dire que le résultat n'appartient pas aux disciples. Le résultat ne nous appartient pas. Nous sommes témoins. Cherchons à influencer, à distiller les valeurs du royaume, à présenter l'Évangile. Et c'est là notre rôle aujourd'hui. Ce n'est pas d'imposer le royaume de Dieu ou d'éradiquer le mal. Notre espérance chrétienne réside dans le fait qu'un jour le mal sera vaincu par Dieu seulement. Et ce jour-là, il y aura une moisson. Cette moisson qui est le jugement dernier. C'est à ce moment-là que Jésus reconnaîtra les bons épis de la mauvaise herbe. Et les bons épis pourront entrer dans la vie éternelle. La mauvaise herbe, elle, sera jetée au feu. Discours qui n'est pas forcément facile à entendre. Mais ce discours veut aussi dire que notre patience sera récompensée au temps de la moisson. Le mal et la souffrance sont encore présents aujourd'hui. Ce n'est pas un scoop, c'est une réalité que nous vivons. Et certains d'entre nous traversons peut-être des temps difficiles, des temps de souffrance, des temps d'épreuve. Ce matin, cette parabole nous dit « patience, attends ». Le propriétaire du terrain est au contrôle. C'est lui qui a la solution. Alors ce n'est pas notre solution, on aimerait que ça aille plus vite. C'est sa solution. Cette solution nous invite peut-être à lâcher prise. Et c'est là qu'on peut aborder qu'est-ce qu'il faut éviter de faire face au mal. Vouloir à tout prix arracher la mauvaise herbe comme ses serviteurs. En voulant arracher la mauvaise herbe tout de suite, ses serviteurs se seraient trompés de combat. Arracher le mal de ce monde, c'est le travail de Dieu. Il ne faut pas être fataliste non plus. On est appelé à rayonner du royaume de Dieu. Les disciples ont prié pour des guérisons, ils ont chassé des démons. À leur suite, nous pouvons faire la même chose. Mais le problème du mal dans son ensemble, dans sa globalité, ne nous appartient pas. Nous sommes témoins de ce royaume. Et finalement, notre rôle, c'est simplement d'attendre. Attendre, pas passivement, mais peut-être attendre en nous souvenant de la parabole précédente du semeur et des terrains qui nous encourageait à veiller sur le terrain de notre cœur. Jésus, au travers de cette parabole, nous invite davantage peut-être à la consécration, à veiller, à prier, à faire silence devant lui, à tout mettre en œuvre pour que l'épi que nous sommes puisse tenir dans ce champ de mauvaises herbes. Et peut-être aider aussi l'épi d'à côté à se redresser un petit peu. Notre rôle n'est pas d'éradiquer le mal. Mais de tenir bon face à lui. Est-ce que j'aurais dû poster un commentaire suite au reportage de France Télévisions sur les évangéliques ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'aurais dû amener une réaction quelconque. En tout cas, pas dans l'énervement. Parfois, nous nous trompons de combat. Nous voyons des choses sur les réseaux sociaux. Ce reportage, on est symptomatique. Et puis, on passe du temps à lire, à réagir. Est-ce que c'est là le bon combat ? Une question que je laisse ouverte. Je crois que cette parabole nous invite à regarder à nous-mêmes, à notre consécration. Comment est-ce que nous sommes ? Comment est-ce que nous vivons ? Comment est-ce que nous grandissons comme épi ? Et c'est à cette consécration que Jésus nous invite quand il nous enseigne la prière du Notre Père. Et finalement, avec deux phrases de cette prière, il résume toute cette parabole. Que ton règne vienne. Mais il dit aussi, délivre-nous du mal, parce que lui seul peut le faire. Pour conclure ce message, je vous invite à vous lever et à prier ensemble cette prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.